Nous nous posons donc ce soir la question « Qu'est-ce que la magie ?» Et je veux commencer par une réflexion que nous entendons évidemment très fréquemment dans la bouche d'un certain nombre de personnes que nous côtoyons et qui font allusion à des fréquentations de personnes qui trempent dans le domaine occulte et qui disent fréquemment donc qu'il y a une bonne magie et une mauvaise magie. Beaucoup de gens disent cela et ils sous-entendent qu'il y a une magie pour faire du bien et une autre magie pour faire du mal. Souvent, on obtient la confidence, mais vous savez, cette personne, elle ne fait que du bien. Ou bien cette personne, ah ben, on sait qu'elle peut faire aussi le mal. Donc quand on affirme cette dualité, il y a une bonne magie et une mauvaise magie, on sous-entend aussi, ne vous posez pas trop de questions, ces gens font de la bonne magie puisqu'ils soulagent les souffrances, ils guérissent les maladies. D'ailleurs, même des médecins envoient des gens chez eux. Même au service des grands brûlés, dans certains hôpitaux, on fait venir des conjurateurs de brûlures. Même des prêtres, quelquefois, vont voir ces gens-là ou exercent même des religieuses, ont un pendule, font du magnétisme. Alors écoutez, monsieur l'abbé, où est le problème? Peut-être que vous exagérez un tout petit peu. Donc nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la magie? Et de façon assez résumée, je voudrais dire, il y a deux formes de magie, la magie manifestée et la magie camouflée. C'est un peu curieux comme distinction, mais c'est précisément pour faire comprendre que une partie de la magie est sous-marine. C'est un peu comme un iceberg. On est habitué à penser que la magie, c'est la magie noire. Et effectivement, on voit bien que la magie noire, ça consiste à invoquer Satan par des rites, par des rituels magiques, pour obtenir pour soi ou pour d'autres le succès, la réussite, la santé, l'argent, la gloire, la domination mondiale dans un certain nombre de secteurs. Souvent aussi pour faire du mal à d'autres personnes, pour leur nuire. Voilà, c'est ce que j'appelle la magie manifestée, la magie noire. Mais il y a un autre domaine de la magie, qui est la magie camouflée, la magie blanche, qui consiste à invoquer Dieu, la Trinité, la Vierge Marie, les saints, vrais ou faux, en prétendant mettre la main sur la puissance divine. Les formules recherchent la guérison, la préservation des difficultés, la puissance, la réussite. Les gens ont chez eux tout un décorum religieux qui laisse à penser qu'ils agissent précisément au nom de Dieu et que ce sont des personnes profondément croyantes. Mais en fait, c'est un camouflage. Il n'y a qu'une seule magie, ça trompe énormément. Une seule magie sous deux formes, ouvertement satanique, la magie noire, ou masqué sous des habits religieux et charitables, c'est pour faire du bien aux autres, tel est le refrain qu'on a entendu à chaque fois qu'on a examiné ces choses de près, et donc la magie blanche. On aurait pu rajouter aussi la magie sexuelle, la magie rose, etc. Mais voilà, je perds simplement cette distinction avant d'aller plus loin, et pour aller plus loin précisément, on va essayer de se poser la question de l'origine de la magie. Et pour comprendre l'attitude magique, il faut effectivement remonter avant même les grands systèmes religieux, dans le vieux fond commun à toutes les civilisations traditionnelles, où on percevait la nature comme un grand tout, où les manifestations sensibles de la vie se mêlaient aux esprits invisibles qui étaient censés se manifester ou les animer. Avant même donc l'émergence des grandes religions traditionnelles, les hommes vont se situer de deux façons différentes par rapport aux réalités invisibles. Soit ils vont leur rendre un culte de respect et d'adoration, tout en cherchant à se les concilier par des prières, des offrandes et des sacrifices. C'est la religion païenne. Donc on va adorer le soleil, on va penser qu'il y a le dieu de la pierre, le dieu de l'orage, etc. Et on va offrir des sacrifices pour amadouer, pour se concilier ces, esprits cachés dans la nature, c'est la religion païenne. Soit, deuxième direction, on va s'efforcer de mettre la main sur ces forces mystérieuses afin de les manipuler selon ses besoins et ses désirs. Et c'est là qu'interviennent donc les rituels de la magie. Et vous voyez bien la différence entre les deux. La première attitude est évidemment la plus courante et a donné lieu à toutes les religions païennes. Mais la seconde attitude est néanmoins extrêmement répandue également. Essayer de mettre la main sur ces forces mystérieuses, essayer de les manipuler, de s'en servir, et donc accomplir des rituels magiques. Le rite magique est souvent composé d'une invocation, d'une formule, non pas d'une prière, d'une formule, éventuellement d'un geste particulier, d'un petit rituel. La magie noire s'adresse à Satan, au diable et aux démons. On sait très bien que ce n'est pas compatible avec le baptême chrétien et que quelqu'un qui dérive vers la magie noire, c'est quelqu'un qui a renié sa foi et son baptême. Mais dans le cas de la magie blanche, on semble s'adresser à Dieu par l'intermédiaire des saints, et c'est là que se trouve la tromperie et le piège dans lequel tombent la plupart des gens. En fait, le rite de magie blanche aboutit aussi aux démons, car on ne met pas la main sur Dieu. Je vous redonne la formule pour les brûlures. Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur en trahissant notre Seigneur. À partir du moment où quelqu'un accepte de recevoir cette formule dans une transmission familiale, par exemple, cela équivaut à une initiation et à une sorte d'agrément et d'acceptation, et donc la formule va devenir opératoire. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une prière, que c'est un rite magique ou une formule magique. Pour essayer de mieux distinguer encore la différence entre prière chrétienne et formule magique, je vous propose ce petit tableau qui vaut ce qu'il vaut, mais qui essaye de faire le partage. La prière chrétienne, on sait très bien qu'elle s'adresse à Jésus, au Père, à l'Esprit Saint, tandis que la magie blanche invoque d'emblée plutôt les saints, et vrai ou faux, puisque Judas a une certaine part. La prière chrétienne implore, accueille, demande avec humilité, tandis que la magie blanche prend, s'approprie, conjure, commande. Donc dans une attitude plutôt de domination et d'orgueil. Pour la prière chrétienne, le résultat est soumis à la volonté de Dieu, puisque Jésus nous a appris à dire « que ta volonté soit faite ». Tandis que dans le cadre de la magie blanche, on voit bien que le résultat est automatique et immédiat. C'est tellement frappant que, précisément, cela développe une sorte de volonté de puissance, d'acquisition du pouvoir. Et donc, en pastichant un petit peu loin, on pourrait dire que ma volonté soit faite. En poussant un peu plus loin la réflexion sur le comportement religieux et le comportement magique, on pourrait prendre cet exemple. Quand on a besoin de la pluie, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut s'adresser à Dieu par une prière, mais de toute façon, Dieu répondra comme il le voudra. Supposons qu'il ne me donne pas la pluie, alors j'aurai un comportement religieux si je demeure ferme dans ma foi en lui, en paix devant sa libre décision de ne pas exaucer ma demande, de ne pas me donner la pluie. Au contraire, quand j'ai besoin de la pluie, si je suis convaincu qu'il me suffit de réciter une formule pour obliger Dieu, ou bien une divinité, un esprit, voire le diable, à faire pleuvoir, il est évident que là, je suis dans un comportement, d'une part superstitieux, mais d'autre part magique. Je suis dans le cadre de la pensée magique. Une personne va avoir un comportement religieux quand elle croit en Dieu, quand elle l'adore, le loue, le bénit, le remercie, lui demande pardon pour ses péchés en les confessant, compte sur lui en lui remettant sa vie sans condition, et s'abandonne à son amour avec une confiance totale. C'est la définition du chrétien parfait ici, n'est-ce pas ? Eh bien, quand cette personne prie, Elle n'a jamais l'idée de forcer Dieu par sa prière, de le plier à sa propre volonté, mais seulement d'obtenir la grâce nécessaire pour s'ajuster elle-même à ce que Dieu veut. C'est ça le sens de la prière chrétienne, de la prière profonde, de l'oraison, se mettre en état d'accueil pour obtenir la grâce nécessaire pour nous ajuster nous-mêmes à ce que Dieu veut. Mais le comportement magique, lui, est tout à fait différent, puisqu'il se traduit par un recours à des formules, des rites, des gestes, des filtres, des amulettes, des talismans. Pourquoi ? Pour se protéger du malheur, pour attirer la chance, ou encore pour acquérir un pouvoir et une maîtrise extraordinaire sur la réalité. Une maîtrise extraordinaire sur la réalité, donc en asservissant des forces cachées, dont on ignore la provenance. On va donc chercher à forcer le cours des événements, à avoir une influence, un pouvoir sur les autres, à son propre avantage ou à l'avantage des personnes qui ont commandité le rituel. Mais il est bien évident que celui qui va répondre à mon rituel ou mon engagement risque bien d'être le démon. Car on ne met jamais la main sur Dieu. On ne met jamais la main sur Dieu. Jésus, plus d'une fois, on le voit dans l'Évangile, a déjoué certaines attitudes magiques des gens. Par exemple, après la multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Jean, il est écrit « À la vue du signe qui venait du fer, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. » C'est allusion à une prophétie du Deutéronome chapitre 18. D'ailleurs, c'est juste avant la mise en garde contre la magie, le spiritisme et autres, l'annonce d'un grand prophète. C'est vraiment lui le grand prophète qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul. Donc Jésus disparaît, Jésus prend la poudre d'escampette. Il n'y a plus personne qui répond au numéro demandé. Jésus a disparu. Il a esquivé pour ne pas se laisser... C'est une des raisons pour lesquelles Jésus exigeait assez fréquemment le silence après une guérison, par exemple, à cause de la méprise dans laquelle on pouvait tomber en pensant qu'on allait mettre la main sur Dieu. Ici, en l'occurrence, avoir la multiplication des pains 3 fois par jour, ça aurait tout de même été quelque chose d'intéressant. Donc, voyez bien que la foi et la magie, c'est deux démarches opposées. Il faut choisir, car toute magie est incompatible avec le baptême chrétien. Le catéchisme de l'Église catholique, toujours dans les mêmes numéros, 2115-2118, est tout à fait clair sur cette question. Il dit « Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, eh bien tout cela est gravement contraire à la vertu de religion. » Je reviens sur ce texte que je vous avais déjà cité. Jésus nous a prévenu, des gens peuvent sembler faire des grands miracles, mais en fait commettre le mal. C'est assez curieux que dans ce passage de l'Évangile, vous avez face à face le mot « miracle » et le mot « commettre le mal ». Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» On pourrait transcrire ici « N'est-ce pas en ton nom que nous avons annoncé l'avenir ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons désenvoûté ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des guérisons pour soulager les gens ?» Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il y a donc des mystifications et des contrefaçons, des charismes venant de l'Esprit-Saint, contrefaçons qui sont directement mises en place comme d'origine diabolique. Voilà une première réflexion sur... la réalité de la magie, enfin la réalité, le sens de la magie. Je vous avais